Before we start, we'd like for you to forget everything that went on today or last night or things that are supposed to happen tomorrow because, you know, we're trying to make our own little world right here. At least give us that.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Ah bon, Richardo.
Une page d'histoire mise en récit par un texte, des archives et des musiques choisies. Désormais, chaque dimanche de 15h à 16h sur France Culture, voici Jukebox. Bonjour à tous. Il y a tout juste 50 ans, le 18 septembre 1970, disparaissait Jimi Hendrix, succombant dans un hôtel londonien d'un mélange de somnifères et d'alcool. La trajectoire fulgurante, moins d'une poignée d'années, de ce guitariste d'exception mort à 27 ans, a donné lieu à tout type de récits, souvent excessivement larmoyants au regard de ce tempérament déluré et fonceur. Aujourd'hui, nous nous focaliserons ici sur la genèse de son troisième et ultime album studio achevé, Electric Ladyland, enregistré entre fin 67 et 1968, où Hendrix, plus qu'un simple gaucher de génie, se révèle en maître d'œuvre d'un univers sonore complexe et onirique. Aujourd'hui, Jimi Hendrix au pays des femmes électriques. Posons comme préambule l'un de ces moments anodins, ces flottements qui précèdent l'avènement des choses. Ce n'est pas tout à fait le début de l'histoire d'ailleurs, mais ce 14 juin 1968, alors que viennent d'être lancées les bandes d'enregistrement, le technicien, depuis la régie, pose la question rituelle, histoire de bien nommer les étapes. « Hey Jimmy, ça s'appelle comment ce que tu vas jouer ?»« Hein ?» L'autre n'entend pas, alors l'ingénieur réitère. Et Jimmy de répondre « Electric Ladyland ». « Tiens, c'est joli », dit l'autre. « Lovely ». Dans la foulée, Jimi Hendrix se met à broder avec sa guitare un motif des harmonies aériennes qui tiendront lieu d'ossature au titre qui donnera son nom à l'album tout entier. Un morceau qu'il aura mis en boîte avant la fin de la journée. De l'autre côté de la vitre, l'ingénieur du son, c'est Eddie Kramer, un jeune Sud-Africain qui, les années précédentes, a enregistré avec les Stones, les Beatles et que s'arrachera par la suite le gratin du rock, Led Zeppelin en tête. C'est un passionné, un type méticuleux et surtout, il est patient. Tandis que le producteur de l'album, horripilé du perfectionnisme d'Hendrix, a déjà claqué la porte, Kramer, lui, s'est accroché à sa console. Bien lui en a pris, certains chefs-d'œuvre s'accouchent dans la durée.
What?
What is it called?
Electric Ladyland.
Cela s'appellerait donc Electric Ladyland, l'électrique pays des femmes, ou plutôt le pays des femmes électriques, ces nuées de filles qui tournent autour des rockstars, celles que les autres musiciens réduisent au rang de groupies, mais dont Hendrix pense que certaines parmi elles comprennent mieux que nombre de mecs ce qu'ils cherchent à dire. Ces filles, ce sont celles que cet ogre insatiable fait valser dans son lit les nuits tombées, entre les bras de qui il se noie, il se rêve, il se retrouve, bien mieux que dans une famille, la sienne n'ayant jamais été un refuge. Le pays des femmes électriques, donc, où la promesse de pouvoir vivre vite, se sauver, se trouver une terre promise, un espace à soi pour échapper au chaos du monde.
In a promised land, I hear pleas and prayers and a desperate whisper saying, "Oh Lord, please give us a helping hand." Souls, the city's burning, and on across the water, babe, I see her weapons barking out the sting of death. And up in the clouds, I can imagine UFOs chuckling themselves, laughing, they sing. Those people so uptight, they sure know how to make a mess.
Somewhere, un blues psychédélique qui ne sera finalement pas inclus dans l'album final, mais qui avait été enregistré à la même époque par Hendrix le 13 mars 1968 à New York, accompagné ici de Buddy Miles à la batterie et de Stephen Stills à la basse. Somewhere, quelque part, un point d'accroche comme un autre pour débuter. À la fin de l'année 1967, Jimi Hendrix a 25 ans. Sa carrière de musicien vient réellement de s'envoler 12 mois plus tôt, lorsque ce guitariste prodige a fait paraître son premier album solo. Auparavant, donc, il s'était arraché à une enfance fracassée, une mère alcoolo, un père mobilisé dans l'armée, dans le sillage de sa naissance, et qu'il n'avait pas vu les trois premières années de sa vie. Son père, qui était ensuite revenu pour mieux s'entre-déchirer avec sa mère et faire voler le foyer en morceaux. Après cette entrée en matière sordide, Jimmy, qui s'appelait encore James, s'était tiré de son Seattle natal. Après une arrestation pour vol de chignoles, l'armée s'était présentée comme une échappatoire. Sauf qu'évidemment, avec son tempérament, ça n'avait pas vraiment collé. Et après un an à jouer les parachutistes au sein de la 101e Airborne, Hendrix était parvenu à se faire démobiliser. Au tout début des années 60, il avait alors donné libre cours à sa passion pour la musique, lui qui, tout gamin, jouait de la guitare avec un balai avant que son père ne lui offre un ukulélé à une seule corde. Il avait sauté à pieds joints, faisant ses gammes quelques saisons dans ce que l'on appelait le Chitlin Circuit, le réseau des salles du sud et de l'est des États-Unis où les artistes noirs se produisaient à l'attention des noirs. Ses talents de guitariste l'avaient fait repérer et embaucher par la crème des groupes de rhythm and blues ou de soul, The Isley Brothers, Sam Cooke, les Kings of Rhythm de Ike Turner et surtout Little Richard, le père du rock'n'roll. Sauf qu'à chaque fois, ça ne s'était pas très bien passé. Trop doué avec ses six cordes, Hendrix prenait trop de liberté et trop de place. En 66, il avait donc sauté, comme le veut toute bonne histoire américaine, dans un bus Greyhound, et le voilà à New York, et plus précisément à Greenwich Village. Là, il avait formé un groupe, Jimmy James and the Blue Flames, et un soir, au Café Wa, il avait croisé la route de Chas Chandler, le bassiste de The Animals, qui souhaitait devenir manager et producteur. Chandler l'avait pris sous son aile et lui avait proposé de traverser l'océan pour tenter sa chance en Angleterre. À Londres, on avait recruté un bassiste, un certain Noel Redding, et le batteur Mitch Mitchell. Fort de ce nouveau groupe baptisé The Experience, Jimi Hendrix avait publié avant la fin de l'année Hey Joe avec le succès qu'on sait.
Oh, wait, let me just do one more time, okay?
Un an plus tard, en décembre 67, Jimi Hendrix est devenu un phénomène mondial, ayant donné plus de 200 concerts en Europe et naissance à deux albums détonnants, Are You Experience, mais aussi Axis Bold as Love, albums certes remarqués, mais qui n'ont pas atteint le haut des classements et surtout dont il n'est pas vraiment content, lui, l'éternel insatisfait. Pour son troisième opus, le futur Electric Ladyland, il rêve de plus singulier, de plus personnel. Il dispose déjà d'un premier titre, Burning of the Midnight Lamp, esquissé en mai 67 dans un studio de Londres, lorsqu'il était tombé en arrêt devant un clavecin traînant dans un coin. Plus tard, il en avait écrit les paroles dans un avion entre Los Angeles et New York, et il l'avait enregistré en juillet. Burning of the Midnight Lamp, où transparaissent ses aspirations pour de nouvelles sonorités, un clavecin, donc une guitare qui sonne comme une mandoline, mais aussi l'une des toutes premières pédales wah-wah, dérivée d'un effet utilisé depuis les années 20 par certains trompettistes de jazz et qu'un type venait de ressusciter pour l'appliquer aux guitares électriques. À propos de ce titre, Hendrix dira « Tout le monde connaît ce sentiment en voyageant que, quelle que soit votre adresse, vous n'habitez réellement nulle part. C'est comme ce qu'éprouve un homme dans une vieille cabane au milieu d'un désert éclairé par sa lanterne. » De là à penser que Jimi Hendrix est alors sans repère, sans domicile, sans attache, ce serait sans doute excessif, mais sans doute mesure-t-il alors l'importance du voyage qui l'attend.
Yeah.
Rien ici à rencontrer, hormis la lune de velours. Toute la solitude que j'ai ressentie ce jour, c'est un peu plus qu'il n'en faut pour qu'un homme veuille en finir. Et je continue à m'échiner tard dans la nuit, seul. Burning of the Midnight Lamp, Jimi Hendrix, et le quatuor Rhythm and Blues des Sweet Inspirations, New York, juillet 67. Son nouvel album, Hendrix le veut donc différent des précédents. Il souhaite creuser des morceaux plus longs, débarrassés du carcan réglementaire des 3 minutes. Et plutôt que de ne s'en tenir qu'à de petites histoires déroulées au travers d'un texte, il veut bâtir une atmosphère, développer des instrumentaux, des textures, creuser une veine psychédélique. C'est l'époque où le rock se raffine. La publication, cette année 67, du Sgt. Pepper's des Beatles l'a profondément marqué, moins par son côté concept album que par le travail justement sur le son. Les premiers coups de pioche d'Electric Ladyland sont donnés depuis Londres, dans la foulée immédiate de la parution de son précédent album. Le 20 décembre, au studio Olympique, il grave ainsi Crosstown Traffic, qui, le premier, fera la part belle à la spatialisation du son, comme un écho à cet immense embouteillage urbain et à cette fille qui s'incruste dans votre bolide psychédélique. Les jours suivants, on est début janvier 68, Jimmy et son groupe doivent honorer une courte tournée en Suède et au Danemark. parenthèse chaotique au cours de laquelle Jimmy, incapable de trouver sur place ses substances préférées, abuse de l'alcool et, rendu fou, ravage sa chambre d'hôtel, se faisant coffrer puis retenir sur place pendant 15 jours. Finalement, de retour à Londres, il retrouve les studios olympiques le 21 janvier. Là, il s'attelle à un autre titre. Ce sera la reprise d'All Along the Watchtower, sortie par Bob Dylan quelques semaines plus tôt. Dylan, pour un Hendrix, c'est un peu le messie. D'ailleurs, il se trimballe en permanence avec un carnet dans lequel il a recopié certaines des paroles de ses chansons. Et puis il y a aussi le style de chant de Zim, de Dylan, qui inspire Hendrix, lui qui déteste sa propre voix. All Along the Watchtower, la tour de guet, dont le texte ferait référence au biblique livre d'Isaïe. Ces sont les faux serments, il se fait tard maintenant, tout le long de la tour de guet, les princes restés aux aguets, pendant que femmes allaient, venaient, ainsi que servantes aux nus pieds. Dehors alors, dans le lointain, un chat sauvage grogna soudain, les deux cavaliers approchaient, et le vent se mit à hurler.
Some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody up in this world.
All Along the Watchtower, enregistré le 21 janvier 68 au studio Olympique de Londres. Son solo incroyablement structuré au cours duquel Hendrix use notamment d'un simple briquet qu'il fait glisser sur ses cordes. À ce moment déjà, Jimmy n'hésite pas à modifier le casting. Ainsi, pour ce titre, il demande à Noel Redding, son bassiste attitré, de lui céder son instrument. Lors de la même session, Brian Jones, des Rolling Stones, qui passait une tête par là, avait proposé d'accompagner la rythmique au piano, sauf que, passablement éméché, Jones était incapable de garder le tempo et on lui avait gentiment mis entre les mains une petite percussion. On retrouvera sur la suite de l'enregistrement de l'album ce goût pour les invités surprises, une sorte d'environnement bohème, avec Jimmy pour seul véritable maître à bord.
To take a last walk through the noise to the sea, not to die but to be reborn, away from a land so battered and torn.
La suite de l'Odyssée se passera au mois d'avril, aux États-Unis, au studio Record Plants de New York, ouvert le mois précédent sur la 44e rue par un ingénieur du son, Gary Kellgren, qui souhaitait combiner équipement de pointe et qualité du cadre. Kellgren officie quelques jours aux manettes, le temps que puisse les rejoindre l'ingénieur du son choisi par Jimmy, Eddie Kramer, qui avait déjà officié sur ses deux albums précédents et qui l'avait initié au travail de studio.
Ce qui m'a frappé, c'est que le deuxième album correspond au vrai démarrage, parce qu'il s'est beaucoup plus investi dans le mixage. Quand je manipulais la console en jouant avec de l'écho ou de la compression, il disait « Qu'est-ce que c'est ?» Et je lui répondais « C'est ce que je fais avec la voix, et maintenant je vais essayer autre chose, donner cet effet à la guitare, écoute bien. » Ça l'excitait. Et du coup, j'étais encore plus excité et on devenait complètement fou avec ces effets, parfois à l'excès. Et au bout d'un moment, il disait « Ok, on se calme un peu avec ces trucs. » Mais il n'y avait pas vraiment de limite qu'on ait atteint. On planait à côté de nos pompes la plupart du temps. On essayait tout. Il était formidable en studio. Et c'était aussi un type très amusant. Il n'y avait pas un moment où on ne se marrait pas, où on ne se motivait pas l'un l'autre, parce que pour lui, enregistrer était amusant.
To him, recording was fun.
And they also threw this in my face. They said, anyway, you know good and well, it would be beyond the will of God.
Le choix de Jimmy s'est porté sur ce studio car le Record Plants est alors l'un des seuls au monde à disposer d'une console d'enregistrement 12 pistes, soit autant de possibilités de superposition de couches sonores. À titre de comparaison, à Londres, il n'y avait que 4 pistes, ce qui obligeait à des mix intermédiaires. Et puis, au Record Plants, l'ambiance est feutrée, confortable, à mille lieues des studios qui ont alors souvent des allures d'hôpitaux, murs blancs et néons au plafond. Quand on doit passer des semaines enfermés, ça compte aussi. Hors le studio, Jimmy souhaite s'y attarder, à chercher, à expérimenter de nouvelles formes, de nouvelles textures sonores. Sauf que, du temps, Jimmy va alors en manquer. Fin janvier, il donne 2 concerts à l'Olympia de Paris, puis, dès le 1er février et les 2 mois suivants, Jimmy part à l'assaut de l'Amérique. Lui qui, souvenons-nous, s'était d'abord fait connaître en Angleterre, a alors la possibilité de tourner dans son propre pays, où il ne s'était produit qu'une poignée de fois, notamment lors du festival de Monterey, où il avait fait forte impression par sa présence incandescente et l'immolation par le feu d'une Stratocaster. En février et mars, donc, lui et ses 2 musiciens sillonnent les États-Unis au cours d'une tournée marathon. 47 concerts en 66 jours. Bien organisé, ça ira encore, sauf que l'itinéraire de cette tournée a été tracé en dépit du bon sens. Ils effectuent d'incessants allers-retours, d'un bout à l'autre du pays, jouant un jour au nord, le lendemain au sud, pour mieux revenir le surlendemain au nord, etc., etc. Le groupe se produit dans des facs, des clubs ou des salles de taille moyenne. Le succès est là, mais rapidement, les trois compères sont sur les rotules. Des tensions apparaissent. Jimmy n'a pas le recul nécessaire pour songer à son futur album, dont le gros des enregistrements doit avoir lieu en avril. Il enregistre bien, dès qu'il le peut, certaines esquisses ici ou là. Et puis, il ne cesse de noircir des pages de texte. Mais le temps de se poser, de composer, de réfléchir, ce temps lui manque. Les rares moments qu'il parvient à dégager, c'est au hasard des errances sur la route, comme au mois de mai, où, invité à se produire pour deux dates lors du Miami Pop Festival, un déluge empêche la tenue du deuxième concert. Et voilà Hendrix, bloqué à l'arrière de la voiture, qui met à profit ses trompes d'eau pour faire pousser une chanson. Rainy Day, Dream Away. Jukebox, aujourd'hui Electric Ladyland, Hendrix, Dynamite, le studio. Rainy Day, Dream Away, enregistré le 10 juin avec un Jimi Hendrix entouré de nouvelles têtes. Larry Fawcett au congas, le batteur Buddy Miles, le saxophoniste Freddie Smith et Mike Finnegan à l'orgue Hammond. La boîte contenant la bande est d'ailleurs étiquetée « Hendrix and Friends ». On le verra, ce recours à des musiciens extérieurs, amis ou pas, ne sera pas sans conséquences. Il y a donc la contrainte exténuante des concerts à donner qui hache le travail. Jimmy, pour économiser des déplacements inutiles, a décidé de faire de New York son camp de base. Il loge au Drake Hotel sur Park Avenue. Dans sa chambre, il dispose d'un enregistreur grâce auquel il enregistre des maquettes. Seule manière pour lui, qui ne sait pas noter la musique, de conserver la mémoire de ses idées. Mais rapidement, le travail en studio souffre également du caractère fantasque de Jimmy qui rend parfois foutraque les sessions. À New York, il conduit à toute blinde une puissante Corvette repeinte aux couleurs de l'arc-en-ciel et en studio, il rigole, il fait marrer les autres en imitant la voix de Little Richard, quitte à verser dans l'excès. Il n'est pas rare que Chas Chandler, le producteur, ne le voit débarquer en studio l'après-midi, accompagné de plusieurs dizaines de personnes, groupies, fans, curieux, dealers de drogue. Des parasites, résume le producteur, qui se vautrent partout, en régie, dans le couloir, en studio, à écouter Jimmy jouer et, pour les musiciens, à espérer contribuer à la mêlée. Un jour, Hendrix convie même le chauffeur de taxi qu'il avait déposé afin qu'il joue des percussions. Forcément, tout ce monde, cette petite cour, influe sur l'atmosphère de travail et il arrive que Jimmy donne l'impression de moins chercher à enregistrer la bonne prise que de vouloir divertir l'assemblée. Ajoutez à cela une consommation exponentielle de drogue, LSD ou héroïne, aux yeux et aux oreilles de Chandler, le producteur, lui qui aime travailler vite et bien, tout ce temps passé en studio, c'est beaucoup d'énergie de perdu et encore plus d'argent qui s'envole. Mais Jimmy, lui, souhaite se nourrir de ce chaos, de cette dynamique, il veut prendre son temps. Ainsi, pour Gypsy Eyes, il s'y reprendra à plus de 50 prises avant d'estimer tenir la bonne. Pour Chas Chandler, qui s'en serait volontiers tenu à la troisième, c'en est trop.
Ladyland, j'aurais aussi bien pu ne pas être là. N'écoutez pas. Et je lui ai dit, je ne vais pas rester assis là, je préfère travailler sur quelque chose dont j'ai vraiment l'impression de faire partie.
À l'issue de l'enregistrement de Gypsy Eyes, le 1er mai, Chas Chandler jette donc l'éponge et quitte le navire. Hendrix est désormais son propre producteur.
Mmh. I'm a voodoo child.
Le soir même, en sortant du studio, comme il en a pris l'habitude, Jimmy se rend dans une boîte voisine de Scene Club, un sous-sol de la 46e rue. Il passe la nuit à jammer avec son batteur, Mitch Mitchell, et avec deux autres musiciens qu'il adore, Jack Cassady, le bassiste du groupe Jefferson Airplane, et l'organiste Steve Winwood, fondateur du groupe Traffic. Cette nuit-là, il joue un blues autour duquel Jimmy tourne depuis un certain temps, et ça fonctionne tellement bien entre eux qu'au petit matin, tous quatre s'en retournent au studio pour y graver le morceau en question. Noel Redding, le bassiste attitré de Jimmy avec qui le courant passe de plus en plus mal, se retrouve sur la touche. Redding, qui aurait préféré conserver l'énergie du trio. Il s'exaspère du temps passé à attendre que la grâce touche leur leader. Redding qui dira « Jimmy travaillait longtemps sur les bandes, nous passions des fois une nuit entière à refaire une prise. Rien ne se passait, ou si ça se passait, ça prenait tellement de temps qu'on ne s'en apercevait pas. » Même le batteur Mitch Mitchell confessera sa lassitude.
À ce moment-là, on passait énormément de temps en studio, et du moins ça démarrait, parce que, comme vous avez dit, on commençait à faire assez d'argent pour avoir les moyens de ne rien se refuser. Et de toute façon, Jimmy ne se refusait jamais rien en studio. Mais Noel n'était pas particulièrement heureux du nombre d'heures passées en studio.
En attendant, ce 2 mai à l'aube, Jimmy, Mitch Mitchell, Jack Cassady et Steve Winwood à l'Orgamond improvisent donc Voodoo Child, véritable morceau de bravoure de 15 minutes.
Something like that, you know. Lord, huh, test it. Lord, I'm a voodoo child. And when he brought me back, he gave me Venus, which is green.
Child qui traduit le Good Hendrix pour le blues, lui qui révérait Son House, Muddy Waters ou John Lee Hooker pour un morceau enregistré vers 7h30 du matin le 2 mai au studio Record Plant et sur lequel, quelques jours plus tard, on avait rajouté des applaudissements afin de renforcer l'impression d'un enregistrement en public. Du côté des paroles, Electric Ladyland contient surtout, comme souvent chez Hendrix, des échos à ses relations amoureuses. Mais il développe aussi d'autres textes plus profonds, teintés d'étrangeté. Ainsi, dans 1983, A Mermaid, I Should Turn to Be, Hendrix, fan de science-fiction, déroule un véritable récit narrant le choix d'un homme désireux de s'extirper du monde plongé dans les guerres fratricides et co-probables au Vietnam. Et cet homme qui donc s'enfuit au bras de sa bien-aimée pour trouver refuge dans l'Atlantide, épargné par sa submersion de la folie des hommes. Et puis, un autre titre de l'album fait également exception par son réalisme. House Burning Down, enregistré le 1er mai 68. On est alors quelques semaines après l'assassinat de Martin Luther King à Memphis et les ghettos noirs sont en proie aux incendies et aux émeutes, ce qu'avaient pu constater Jimmy et son groupe lors d'un concert donné en avril à Newark. Hendrix y fait directement référence à l'actualité, évoquant le ciel rougi par les flammes pour mieux interroger les émeutiers. Pourquoi, demande-t-il, brûlez-vous la maison de vos frères ?
So we paint red with the sky. I say the truth is straight ahead, so don't burn yourself instead. Try to learn instead of burn. Hear what I say. So I burned and rolled away, but I'll never forget that day. Cause when I reached the valley, I looked way down across the way. A dying boat from space landed with eerie grace and came and taken all the dead away.
Jimi Hendrix, House Burning Down. À la différence d'un James Brown qui, la même année, cède à la pression des Black Panthers pour s'égosiller « Je suis noir et j'en suis fier », Hendrix, lui, préfère garder ses distances avec le militantisme du Black Power. « La discussion n'est pas entre noir et blanc », dira-t-il un jour au cours d'une interview. « Ça, ce n'est qu'un jeu inventé par la société pour nous dresser les uns contre les autres. » C'est pour ça qu'on a les Black Panthers et en face le troupeau du Ku Klux Klan. Tout ça, ce ne sont que des troupeaux.
Electric woman waits. notes for you and me. So it's time we take a ride. You can cast all your hang-ups over the side while we fly right over the love-filled sea. Look up ahead, I see the love land. Soon you will understand.
I Wanna Show You. Le 14 juin 68, comme on le racontait en ouverture de cette histoire, Jimmy et son groupe avaient donc enregistré le titre Have You Ever Been to Electric Ladyland? Ce jour-là, enfin, lui qui faisait si peu confiance à sa voix, à son timbre sans relief particulier, au point souvent de devoir se cacher derrière un paravent pour chanter, lui est content du résultat de cette voix de fausset qui n'est pas sans rappeler celle de Curtis Mayfield. L'aventure touche alors à sa fin. Les derniers mois de la production, entre juin et fin août, sont essentiellement consacrés à l'enregistrement des overdubs, ces couches supplémentaires de sons ajoutées par Jimmy afin d'exploiter au maximum les pistes disponibles. Le mixage, surtout, donne lieu à un travail très fin, Kramer et lui expérimentant de nombreuses techniques, comme des types d'écho ou de flanging, cette méthode qui consiste à mixer deux signaux identiques en variant les vitesses de défilement de la bande. Mais décidément, rien ne devait se passer comme prévu concernant cet album dont Jimmy avait tout imaginé, tout prévu jusque dans les moindres détails, jusqu'à la direction artistique du livret ou l'image de la pochette. Pour cette dernière, il avait souhaité utiliser une photo prise en août par Linda Eastman, la future Linda McCartney, photo montrant Jimmy et ses musiciens juchés avec trois bambins sur une sculpture d'Alice au Pays des Merveilles située à Central Park. Las, malgré ses instructions envoyées par courrier, son label américain lui préférera une autre image, un plan serré et solarisé du visage de Jimmy, tandis que le label britannique Track, de son côté, substitue une photo nettement plus sulfureuse, étalant la nudité plantureuse de 19 femmes. Un choix qui rendra d'ailleurs difficile la diffusion britannique de l'album et dont Jimmy, tout en le déplorant, notera surtout à regret que les corps en question soient, selon lui, enlaidis par le choix d'un objectif grand angle. Mais ce qui le chagrine davantage, c'est le résultat de l'album pressé qui écrase une grande partie du travail de mixage patiemment opéré, destiné à spatialiser le son, à recréer un son en trois dimensions, pressage qu'il faudra reprendre. Electric Ladyland sortira finalement sous la forme d'un double vinyle le 16 octobre 68 aux États-Unis et le mois suivant en Angleterre. La production, qui avait coûté une petite fortune à l'époque, 70 000 dollars, l'équivalent d'un demi-million de dollars de nos jours, sera largement amortie. Electric Ladyland restera l'ultime album studio achevé par Jimi Hendrix. Par la suite, ce dernier continuera à travailler d'arrache-pied. Il se séparera finalement de Noel Redding et de Mitch Mitchell pour former en 69 un nouvel attelage, le Band of Gypsies, avec qui il creusera d'autres sillons, jazzy et funk, laissant derrière lui des centaines d'heures d'enregistrement. À la toute fin, en 1970, il ouvrira son propre studio d'enregistrement à New York, baptisé, tiens, Electric Lady. Un refuge avec une déco relaxante, des fenêtres rondes et un éclairage multicolore. Il n'y travaillera que quelques semaines avant de s'envoler pour l'île de Wight où il se produira le dimanche 30 août. Suivront quelques concerts en Suède, au Danemark et en Allemagne. Quelques jours plus tard, Jimmy regagnera Londres. Le 18 septembre, on retrouvera son corps sans vie dans une chambre d'hôtel, victime d'un mélange de barbiturique et d'alcool. l'enfant vaudou s'en était allé. C'est sur ce Voodoo Child Slight Return donné le 24 février 69 au Royal Albert Hall de Londres que se referme ce numéro de Jukebox aujourd'hui. Jimi Hendrix au pays des femmes électriques. Jukebox se réécoute et se télécharge sur le site de franceculture.fr où vous retrouvez les références des morceaux diffusés, quelques liens et la possibilité de nous écrire. À la préparation aujourd'hui, c'était Lily Cornert et Pierre Plantin de la discothèque. À lire notamment Jimi Hendrix, Le rêve inachevé, signé Régis Canzelier et paru il y a quelques années chez Le Mot et le Reste. À la technique, c'était Dophar Guéride, Nicolas Berger à la réalisation, au micro et au stylo Amaury Chardot. À dimanche, 15h, pour un nouveau Jukebox.